m'avez laissé au milieu du gué une nouvelle fois, puisque les horaires ne correspondent pas nécessairement aux articulations des événements, mais ça, c'est une contingence comme une autre. Donc, vous avez laissé la dernière fois à la médiation suédoise par le biais du ministre suédois des Affaires étrangères, Andersson, qui a fait préparer un texte par l'OLP. Et Andersson transmet le texte à Schulz, qui lui répond le 3 décembre en définissant la déclaration attendue par les États-Unis de la part du comité exécutif de l'OLP. Accepter de négocier une paix globale sur la base des résolutions 242 et 338, s'engager à vivre en paix avec Israël et avec les autres voisins et à respecter leur droit d'exister en paix à l'intérieur des frontières sûres et reconnues internationalement, et de même pour l'État palestinien démocratique qu'il cherche à établir en Cisjordanie dans la bande de Gaza. Condamner toute forme de terrorisme, qu'elle soit due à des individus, des groupes ou un État, et de s'engager à ne pas y avoir recours, établir un moratoire sur toute forme de violence sur une base mutuelle une fois les négociations commencées. Les Palestiniens peuvent ajouter des compléments ou des éclaircissements du moment qu'ils ne contredisent pas l'acceptation du texte. Rien de cela implique une acceptation ou une reconnaissance de la part des États-Unis d'un État palestinien. Donc ça, c'est le message de Schulz à la Suédois, qui les retransmettent à Arafat, puisque Arafat, le 6 décembre, est en Suède, à l'invitation de Sten Andersson, pour rencontrer à son tour la délégation juive américaine. On attend de lui qu'il prononce publiquement la déclaration prévue, mais il se dérobe, ne reconnaissant lors de sa conférence de presse du 7 décembre qu'il n'y aurait que deux États en Palestine, l'un juif et l'autre arabe, mais sans plus de précision. L'attitude d'Arafat s'explique par le fait que le texte défini par Schulz est sensiblement différent de celui communiqué par Rabier et Quandt. En particulier avec l'omission de la référence à la conférence internationale et de l'échange des territoires contre la paix. Par l'intermédiaire des Suédois, Arafat négocie le retrait de la clause « toute forme de violence » qui pourrait être comprise comme l'arrêt du soulèvement et obtient la précision que les Palestiniens sont libres de demander un État indépendant lors des négociations. Sur cette base, Arafat rentre à Tunis et obtient, au bout de 3 jours de discussion, au comité exécutif, l'approbation du document. Il doit prononcer les paroles fatidiques le 13 décembre à Genève lors de son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU. Au dernier moment, à Ouattmé, le FDLP s'oppose au document et menace de faire scission. Arafat tente alors de manœuvrer en incorporant les phrases demandées dans un discours plus vaste. C'est trop imprécis pour Schulz, en particulier du fait que le chef palestinien a condamné et rejeté le terrorisme, mais non renoncé au terrorisme. Andersson fait de nouveau l'intermédiaire entre les Américains et les Palestiniens. Le 14 décembre, en fin de journée, Arafat prononce en anglais les phrases fatidiques. Il a renoncé hier au terrorisme et pour le procès-verbal, il renouvelle que les Palestiniens renoncent à toute forme de terrorisme, terrorisme, dans l'anglais d'Arafat, d'individus, de groupes et d'États. Exaspéré, il conclut, c'est assez, que voulez-vous de plus? Voulez-vous un striptease. Certains ont compris que tourisme au lieu de terrorisme, c'est-à-dire qu'ils renonçaient à toute forme de tourisme, mais c'était de genre de mauvaise foi, bien évidemment. Bien, c'est ce que prétend mon ami Rachid Khalidi, qui sera invité au printemps pour nous parler ici au Collège de France en cas de conférence du rôle des États-Unis dans le processus de paix. Donc je vous l'annonce déjà pour mars-avril, à l'arrivée de Rachid Khalidi. et qui lui prétend avoir entendu ce jour-là tourisme et non pas terrorisme, en disant il va en cesser enfin de faire le tour du monde et s'occuper plutôt de nos affaires. Bon, fin de la parenthèse. Cette fois, c'est bon. Dans la soirée, compte tenu du décalage horaire, Schulz annonce que l'administration a pris la décision d'entamer un dialogue substantiel avec l'ONP, l'ambassadeur américain à Tunis étant le seul canal officiel. La première rencontre a lieu le 16 décembre. Les deux parties répètent leur position bien connue et il est convenu que la discussion substantielle commencerait après la prise de fonction de la nouvelle administration américaine. En Israël, Shamir s'est engagé auprès des partis religieux à modifier la loi du retour dans le sens souhaité par les juifs orthodoxes, ce qui provoque la fureur des laïcs et des juifs américains, qui seraient majoritairement rejetés puisqu'ils appartiennent à d'autres tendances du judaïsme. Le mécontentement des juifs américains se traduit par leur faible réaction à l'annonce de l'ouverture du dialogue entre les États-Unis et l'ONP. Le chef du Likoud fait alors machine arrière et entame avec les travaillistes des négociations pour former un nouveau gouvernement d'union nationale. Il y voit plusieurs avantages, dont celui de limiter les fonctions ministérielles accordées à ses rivaux au sein du Likoud, Ariel Sharon et David Levy, le porte-parole des Séfarades. L'ouverture des dialogues entre l'ONP et les États-Unis précipite le mouvement. Le 20 décembre, le pacte gouvernemental est conclu. Les deux parties s'engagent à ne pas négocier avec l'ONP et à refuser l'établissement d'un État entre Israël et le Jourdain. Shamir dirigera le gouvernement durant toute la mandature, les deux formations disposant d'un nombre égal de ministres. Rabin conserve le ministère de la Défense, Arens prend celui des Affaires étrangères et Peres se voit confier les finances, ce qui correspond aux besoins du mouvement des kibbutz en pleine crise financière et qui a besoin d'une aide gouvernementale. En cas de rupture de la coalition, on retournera aux urnes. C'est une large victoire pour Shamir qui prend un contrôle définitif des affaires étrangères. Arens, avec ses manières courtoises, est tout aussi intransigeant que lui, tout en se présentant comme pragmatique. Le 22 décembre, le nouveau gouvernement est investi par la Knesset. Nous entrons maintenant dans un nouveau chapitre qui est une période d'impasse pour les années 1989 et le premier semestre, un peu plus, sept premiers mois de 1990, puisque nous suivons strictement, par manque d'imagination, l'ordre chronologique. Et je commencerai ce chapitre sur l'impasse par un texte de fond d'un entretien de Yasser Abed-Rabo, qui est l'un des responsables de l'OLP, en avril 1989, et qui pose la problématique de fond qui est aussi valable aujourd'hui qu'il ne l'était en 1989. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire la reconnaissance d'Israël pour les Palestiniens ? Je cite. Des partis israéliens que nous avons rencontrés, des personnalités israéliennes et même des personnalités occidentales nous ont proposé de signer des documents communs parlant du droit à l'autodétermination des deux peuples sur la terre de Palestine. Nous l'avons nettement refusé en disant « Nous voulons coexister avec vous en paix, c'est vrai, mais nous n'adhérons pas pour autant au sionisme. Ce n'est pas une condition de la paix que d'épouser idéologiquement les idées sionistes et notamment la solution sioniste de la question juive. Notre position était et reste que ce qui s'est produit depuis 40 ans est le résultat d'une injustice historique et non le fruit d'un droit naturel à l'autodétermination sur la terre de Palestine. Nous devons traiter avec des réalités apparues dans l'histoire et qui ont imposé une situation démographique et politique particulière. Dans ce contexte, nous sommes disposés à un compromis historique, mais personne ne peut exiger de nous de conclure un compromis idéologique. Au niveau idéologique, notre position était et reste de résister au sionisme comme idée, comme mouvement et comme pratique. Nous pensons aussi que les Israéliens ne pourront pas s'intégrer dans le Proche-Orient, dans sa culture, son héritage et son peuple, tant que le sionisme se maintiendra comme idée, comme idéologie et comme pratique. Cette question continuera d'être un sujet de conflit à l'avenir. Je ne veux pas dire que le conflit prendra les mêmes formes que durant les quatre dernières décennies, mais simplement que cette contradiction idéologique ne peut être effacée. Elle existe objectivement et continuera d'exister, y compris à l'intérieur de la société israélienne. Le processus du règlement politique pourrait la mettre en relief de plus en plus. C'est donc cela la différence entre ces deux concepts. Nous sommes prêts à vivre en paix avec l'État d'Israël, mais nous ne sommes pas disposés à rendre nos armes idéologiques. C'est-à-dire, en clair, les Palestiniens peuvent accepter un compromis politique ou un compromis historique avec l'État d'Israël, mais ils ne peuvent pas accepter la légitimité de l'État d'Israël au sens où cette légitimité justifierait l'expulsion des Palestiniens en 1948. C'est pour ça qu'on ne fait jamais suffisamment attention entre les différences du mot reconnaissance. Les Palestiniens veulent bien reconnaître un fait israélien, ils ne peuvent pas reconnaître la légitimité. C'est exactement le débat qu'on retrouve aujourd'hui quand Netanyahou demande qu'on reconnaisse l'État d'Israël comme un État juif. C'est exactement le même débat en 2011 qu'en 1989. Mais c'est donc un point qu'il fallait noter parce que ça permet de mieux cadrer les discussions, même si cette année et demie, 89-90, que nous étudions, est une année assez stérile du point de vue politique. Donc, assez ennuyeuse pour vous, puisque vous aurez l'habituelle litanie de dates, d'événements, de textes et autres. L'option américaine de Yasser Arafat est le seul résultat diplomatique tangible de la première intifada. Certes, le soulèvement a montré l'impossibilité de maintenir une administration israélienne directe des territoires occupés, mais le nouveau gouvernement d'union nationale en Israël manifeste un immobilisme politique encore plus prononcé et n'a de but que de briser par la force le soulèvement. Ce dernier s'établit dans la durée, mais comme un conflit de basse intensité. La désillusion après les grandes espérances introduit une amertume qui ne peut que nourrir les radicalismes. Alors d'abord, le raidissement israélien. Le discours officiel israélien évoque la possibilité de tenir des élections municipales dans les territoires occupés une fois le calme rétabli. Dès lors, on pourrait envisager l'ouverture de négociations. Un peu plus tard, Rabin évoque la possibilité d'organiser un conseil palestinien chargé de mettre en œuvre un régime d'autonomie. Il est ainsi prêt à mettre en œuvre ce qu'il avait refusé de faire avant le soulèvement. C'est toujours le même projet de trouver des interlocuteurs en dehors de l'OLP, alors que la seule force dans ce cas est le Hamas, beaucoup plus radical que l'OLP. Faisal el-Husseini est libéré et autorisé à se rendre à l'étranger. Il dénonce publiquement le rôle que les Israéliens voudraient lui faire jouer. Le seul partenaire légitime pour lui, c'est l'OLP. Dans l'immédiat, l'année 1989 commence par 13 nouveaux bannissements de membres supposés des comités populaires. Le 17 janvier 1989, Rabin annonce le durcissement des mesures de répression, emploi généralisé de balles en métal enrobées de caoutchouc, possibilité d'ouvrir le feu sur un lanceur de pierre même s'il fuit et qu'il est de dos, c'est-à-dire pas de légitime défense. Punition collective contre les parents d'activistes, forte amende, destruction de maisons, accélération des procédures judiciaires. Quelques heures après, 3 Palestiniens sont tués par l'armée israélienne. Une fraction notable de la population masculine palestinienne, adulte, se trouve détenue. Durant les 2 premières années du soulèvement, plus de 40 000 Palestiniens passeront, ou sont passés, comme vous voulez, dans les geôles israéliennes. Cette dissuasion est improductive car les prisons servent de lieu de formation et de recrutement des cadres des mouvements nationalistes et radicaux. Pour briser l'économie palestinienne dont les activités agricoles sont les principales productions, on interdit le mouvement des denrées qu'on laisse pourrir avant leur commercialisation. Au nom des impératifs de sécurité, on détruit des vergers et on déracine des oliviers centenaires. Là encore, ces actions se révèlent improductives. Les réfugiés qui sont les plus mobilisés y échappent parce qu'ils n'ont rien à perdre et qu'ils bénéficient des services sociaux de l'UNRWA. En revanche, les classes moyennes qui sont les premières victimes de ces mesures se radicalisent. En dépit de la vigueur de la répression, l'OLP a réussi à faire passer une aide financière à la population, certes relativement modique, mais indispensable pour empêcher un effondrement de l'intifada du fait des difficultés économiques. De son côté, le Fatah tente d'organiser une armée populaire chargée d'organiser et de militariser le soulèvement, mais les responsables sur le terrain refusent de passer sous le commandement direct de Tunis. Néanmoins, la milice réussit à s'implanter dans les campagnes moins soumises à la répression israélienne que les villes. L'armée israélienne doit entreprendre de véritables expéditions pour reprendre le contrôle de certains villages. Les militaires israéliens sont préoccupés du coût de la répression, un moment où Peres, en tant que ministre des Finances, appelle à une réduction des dépenses. La charge de la répression porte surtout sur les réservistes qui font leur période de service de 2 mois essentiellement consacrée à des actions de police et non à l'entraînement au combat. Une petite fraction des réservistes refuse de servir dans les territoires occupés et est sanctionnée par des peines de prison. On s'inquiète du processus de brutalisation morale des soldats qui sont conduits à brutaliser physiquement des civils. Rabin est le porte-parole de l'armée quand il rappelle que les militaires n'ont pas la capacité de briser le soulèvement, mais de seulement réduire la pression. Il faut une solution politique qui appartient au gouvernement. Cette attitude est considérée comme une trahison pour les éléments les plus durs de la droite israélienne, en particulier dans la mouvance du mouvement des colons. Arafat récolte les bénéfices diplomatiques de l'ouverture du dialogue avec les États-Unis en Europe, où le niveau de représentation de l'OLP est en général rehaussé. Les pays européens se montrent plus sympathiques à la cause palestinienne et soutiennent en général l'idée d'une conférence internationale, ce qui les disqualifie pour le gouvernement israélien. Les Pays-Bas, considérés jusqu'ici comme très pro-israéliens, entament à leur tour un dialogue avec l'OLP. À la fin janvier, Arafat fait une visite officielle en Espagne. Les Israéliens se réconfortent avec l'intensification des relations avec les pays de l'Est en voie d'affranchissement par rapport à la domination soviétique. L'émigration des Juifs soviétiques est de plus en plus facile et Israël fait tout pour l'orienter vers lui plutôt que vers les États-Unis. Une opération du FPLP au Liban Sud pose la question de définition du terrorisme. Pour les Palestiniens, il s'agit d'un acte de résistance dans un territoire occupé contre des militaires, donc ce n'agit pas de terrorisme. Les États-Unis adressent un avertissement à Tunis qui répond en soulignant l'absence de réaction américaine pour les morts palestiniens des dernières semaines. Le dialogue par presse interposée se poursuit au mois de février. Les Américains affirment que l'OLP ne peut pas dégager sa responsabilité vis-à-vis d'actions menées par ses factions constitutives et doit mettre fin à toutes ces attaques contre des cibles civiles et militaires à l'intérieur comme à l'extérieur d'Israël. Mais ils reconnaissent aussi que certaines factions basées à Damas tentent de saper le dialogue pour s'opposer au processus de paix. Parallèlement, le rapport annuel du département d'État sur les droits de l'homme dans le monde est extrêmement critique sur le comportement israélien dans les territoires occupés, blâmant l'usage disproportionné de la force et trouvant qu'un grand nombre de morts auraient pu être évités. Le bilan pour 1988 établi après une série de recoupements, donne 366 Palestiniens tués, la plupart abattus par l'armée israélienne, quelques-uns par des colons, 13 Palestiniens accusés de collaboration ont été tués par d'autres Palestiniens. Plus de 20 000 Palestiniens ont été blessés ou maltraités par l'armée israélienne. 11 Israéliens ont été tués au cours de l'intifada et selon l'armée israélienne, près de 1100 Israéliens ont été blessés. La réaction officielle israélienne est que le rapport est trop sévère et partial. Il ignore les provocations des éléments extrémistes. Shamir parle d'exagération de la part des médias et considère que le comportement de l'armée israélienne est comparable à celui de toute autre armée occidentale dans un contexte équivalent. Les Américains gênés rappellent que le rapport porte sur l'ensemble du monde avec des attendus plus sévères pour d'autres pays et que la presse ne semble s'être intéressée qu'à ce seul chapitre. Le premier acte de la diplomatie de Moshe Arendt est de liquider le contentieux de Taba conformément au règlement d'arbitrage. L'accord conclu le 26 février après plusieurs semaines de dures négociations, prévoit que les Israéliens pourront pénétrer dans l'enclave sans visa avec un simple passeport. L'Égypte rachète les installations hôtelières dont la gestion restera sous le contrôle d'une société hôtelière internationale. L'alimentation en eau et en électricité sera fournie par Israël. La rétrocession a lieu le 15 mars. Profitant du relatif effacement de la diplomatie américaine, les Soviétiques ont pris l'initiative en relançant le projet de conférence internationale qui est la propagation des Arabes. Le ministre soviétique des Affaires étrangères, Shevardnadze, rencontre à Reims successivement à Paris, puis au Caire et se propose comme intermédiaire entre l'OLP et Israël. Les débuts de l'administration Bush. Là, vous avez James Baker, George Bush. George Bush et James Baker, le secrétaire d'État désigné, avaient été consultés lors de la période de transition pour l'ouverture du dialogue avec l'OLP et avaient donné leur approbation. L'administration du 41e président des États-Unis, oui, quand on parle de George Bush, on rajoute 41e président pour le distinguer de son fils, George W. Bush, qui est le 43e. Et dans la famille Bush, il s'appelle familièrement 41 et 43. L'administration du 41e président des États-Unis est la plus cohérente de toute l'histoire américaine récente. James Baker est un ami du président et a de solides relations de travail avec ce dernier, qui de son côté a une longue pratique des relations internationales. Il a été ambassadeur à l'ONU et en Chine et directeur de la CIA et vice-président. Il y a une rare unité d'action dans la politique étrangère, d'autant plus que le Conseil de sécurité nationale confié à Brent Scowcroft, je n'ai pas marqué son nom, vous ne retrouverez rien l'autre jour, se remet avec difficulté de la catastrophe de l'Irangate. Autrement dit, l'équipe dirigeante de l'administration Bush travaille en bonne harmonie, Scowcroft, Baker et Bush, et ce sont tous ce qu'on appelle des internationalistes pragmatiques qui sont opposés au dogmatisme des néoconservateurs qui n'accèdent pas au poste décisif de l'administration Bush, contrairement, enfin, de la 41e, contrairement à ce qui se passera sous la 43e administration américaine. Au département d'État, une équipe est chargée des affaires du Moyen-Orient. Elle est composée de Dennis Ross, qui avait aussi la charge des affaires soviétiques, Bill Burns, Don Kurtzer et Aaron Miller. Au Conseil de sécurité nationale, la personne chargée du dossier, Richard Haass. Ce sont tous des juifs américains, à l'exception de Burns. Ils sont profondément engagés en faveur d'Israël, mais dans le cadre de l'intérêt national américain. Ils vont porter pendant des années la politique américaine dans la région, avec le double effet d'être traités de traîtres au judaïsme par l'extrême droite israélienne et d'agents d'Israël par les Palestiniens. Comme nouveau secrétaire d'État, James Baker ne veut pas s'épuiser, comme tout nouveau secrétaire d'État. Il commence toujours comme ça et ça se termine toujours dans le sens inverse. Comme tout nouveau secrétaire d'État, James Baker ne veut pas s'épuiser en vaine navette au Moyen-Orient et n'agir qu'à coup sûr. Il adopte la ligne proposée par Dennis Ross, une phase préliminaire de réduction de la violence, puis le temps de la négociation centrée sur la dévolution des responsabilités israéliennes aux Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Il faudrait que les Israéliens améliorent considérablement la situation des territoires et que l'OLP en tire crédit. Une fois la négociation engagée, éventuellement l'OLP pourrait y participer directement ou indirectement. Si les Israéliens ne veulent pas de conférence internationale, ils doivent proposer une solution crédible à la place. Le message est transmis officieusement aux Israéliens. L'équipe israélienne composée autour de Moshe Arens comprend notamment Dan Meridor, une personnalité montante du Likoud, Ehud Olmert et Benjamin Netanyahu. Elle est chargée de présenter la solution crédible avec pour première tâche de convaincre un chamir des plus réticents. Le 12 mars 1989, Ahrens se rend en visite préparatoire à Washington alors que la presse américaine publie les grands traits de la problématique de Baker. Ahrens considère qu'on veut lui forcer la main. L'entretien du 13 mars se passe courtoisement, le ministre israélien demandant un délai pour permettre à Shamir de présenter son plan lors de sa prochaine visite aux États-Unis. Lors de sa rencontre avec le président, Bush soulève la question des colonies juives dans les territoires. Ahrens répond que le gouvernement est soumis à la pression des membres de la coalition et qu'une ou deux colonies supplémentaires ne modifient pas les données du problème. L'atmosphère est plutôt froide. Le lendemain, la presse américaine explique que les États-Unis veulent que l'on aborde rapidement la question du statut final, puis Baker lui-même déclare devant une commission de la Chambre des représentants que c'est un élément de sa politique que de promouvoir des négociations directes qui peuvent être significatives entre Israéliens et Palestiniens. Maintenant, si vous ne pouvez pas avoir de négociations directes significatives qui n'impliquent pas des négociations avec l'OLP, alors nous devrons avoir des négociations entre Israël et des représentants de l'OLP. Il se peut que vous ayez des négociations significatives qui n'impliquent pas l'OLP. Au téléphone, Ahrens reproche à Baker d'encourager l'OLP. L'intéressé répond qu'il s'agissait là d'une question hypothétique. Ce point plus celui du statut final crée une atmosphère de confrontation. Ahrens travaille immédiatement à mobiliser tous les amis d'Israël aux États-Unis, particulièrement au Congrès. Il faut coaliser les Juifs américains pour faire face à cette menace qui met en danger tout le peuple juif. Pendant ce temps, le 22 mars, se tient la seconde session à Tunis du dialogue avec l'OLP. La délégation américaine consacre l'essentiel de son intervention à la définition des données d'un règlement politique. Les résolutions 242 et 338, l'échange de territoire contre la paix, sécurité pour Israël, reconnaissance des droits politiques des Palestiniens. Elle n'écarte pas l'éventualité d'une conférence internationale, mais insiste sur des négociations directes. Il faut absolument mettre fin à tout acte de violence et établir des mesures d'établissement de la confiance, comme l'adoucissement de la politique israélienne dans les territoires, la fin de l'intifada et la tenue d'élections palestiniennes. Le représentant palestinien Yasser Abed Rabo veut obtenir des précisions sur le sens à donner à droit politique et élever le niveau politique du dialogue en y incluant le secrétaire d'État. Peltrow répond que les Israéliens doivent cesser d'interférer dans la politique palestinienne et permettre la liberté d'activité politique. Les Palestiniens doivent comprendre que les États-Unis ne peuvent pas dicter un règlement et doivent s'engager et doivent engager un dialogue avec les Israéliens. Ça, c'est Arafat en mars 1989. Le 31 mars, Yasser Arafat se fait désigner président de l'État de Palestine par le comité exécutif de l'OLP, ce qui est ensuite confirmé par le comité central. Cette décision est présentée comme technique correspondant aux besoins du protocole des pays qui ont reconnu l'État de Palestine. Au Liban, le général Aoun lance une guerre de libération contre la Syrie et ses alliés. Le pays bascule de nouveau dans une terrible violence. Hosni Moubarak est le premier chef d'État arabe à se rendre à Washington au début d'avril 1989 pour rencontrer la nouvelle administration américaine. Il vient d'abord plaider les dossiers économiques de la coopération égypto-américaine, mais fort de l'information le 16 février 1989 du Conseil de coopération arabe rassemblant l'Égypte, la Jordanie, l'Irak et le Yémen, destiné à contrebalancer le bloc des monarchies du Golfe réunies dans le Conseil de coopération du Golfe, il se fait le défenseur de la conférence internationale. En termes moins diplomatiques, l'Égypte monnaie son influence géopolitique contre l'aide économique et se satisfait d'être le second canal de communication entre les États-Unis et l'OLP. Shamir lui succède le 5 avril. Il a fait adopter par le gouvernement israélien, dont Peres et Rabin, un plan en quatre points qui ne fait que reprendre les accords de Camp David, élections dans les territoires occupés pour discuter d'une autonomie intérimaire de 5 ans. Rabin s'est opposé à la tenue d'élections municipales, préférant la gestion actuelle des municipalités par des officiers israéliens. Cette réaffirmation des accords de Camp David suscite l'opposition de la droite de la majorité menée par Ariel Sharon. Avec une bonne dose de rhétorique, on la présente comme étant la solution crédible avec l'ouverture des négociations avec les États arabes pour mettre fin à l'état de guerre et régler en dehors de tout retour la question des réfugiés. L'atmosphère des entretiens est courtoise. Les Américains tentent d'établir un climat de confiance, mais un malentendu va créer une méfiance durable entre Bush et Shamir. Le président lui a marqué que les colonies constituaient pour lui et pour la politique américaine un problème majeur. Shamir a fait un geste marquant que cela n'avait que peu d'importance, et Bush l'a pris pour un engagement de gel de la colonisation, ce qui n'était certainement pas la signification du geste de Shamir. Comme deux semaines après, le gouvernement israélien annoncera la création de deux nouvelles colonies, le président considérera qu'on lui a menti. Et ça, les Américains n'aiment pas. La diplomatie américaine fait comme si la proposition de tenir des élections était nouvelle et cherche à la transformer en possibilité d'établir un dialogue israélo-palestinien. Elle ne peut pas admettre les objections arabes qui sont d'un double ordre. Tenir des élections sous occupation n'a pas de sens parce que les Israéliens auraient les moyens en permanence de contrôler les candidats et les programmes avec à la clé détention administrative et bannissement. Des élections libres supposent la fin de l'occupation et les Américains font comme si les Israéliens avaient pris un engagement de ce genre. Le second ordre d'objection est le fait de tenir des élections pour une autonomie signifierait accepter d'entrer dans la logique d'une affaire locale israélienne pouvant être réglée par des mesures internes à l'usage d'une minorité nationale vivant sur la terre du Grand Israël. Autrement dit, la proposition israélienne rejette toute possibilité de souveraineté pour les Palestiniens et ces derniers ne peuvent accepter de perspectives que celles engageant à la plénitude de la souveraineté. Là, on est dans les situations classiques de décolonisation. C'est-à-dire, la puissance coloniale est prête à reconnaître suffisamment de souveraineté à ses interlocuteurs locaux, enfin colonisés, à condition que ses interlocuteurs locaux reconnaissent la souveraineté de la puissance coloniale. Voyez-le. Sinon, on ne reconnaît pas de souveraineté. C'est-à-dire, on ne reconnaît de souveraineté qu'à condition qu'on l'abandonne. On a des situations historiques équivalentes dans plusieurs pays, dans l'histoire française et britannique. On en est là dans le schéma récurrent du processus de paix sous égide américaine. Les diplomates américains veulent des mesures d'établissement de la confiance en amplifiant des propositions faites à contre-cœur par les Israéliens. Les deux autres parties savent que l'on peut abstraire les questions de souveraineté des propositions de détail et ont toujours à l'esprit cet élément essentiel. Oui, puisqu'on dit qu'on va faire des mesures factuelles, des mesures d'établissement de confiance, mais chaque mesure, quelle qu'elle soit, comporte un élément de souveraineté pour un camp ou pour l'autre. Alors que les Américains font abstraction de ces dimensions de souveraineté. C'est ce qui va plomber tout le processus d'Oslo. Les deux autres parties savent donc, Louise. À chaque moment, Dennis Ross, tout en se présentant comme l'ami des Palestiniens, adopte la position israélienne. Dans son esprit, on peut toujours exercer des pressions sur l'ELP et jamais sur Israël. Ainsi, les États-Unis multiplient les pressions sur les grandes organisations internationales pour leur interdire l'adhésion de la Palestine en tant qu'État. Le suivant à venir à Washington est le roi Hussein, partisan affirmé de la conférence internationale, seul moyen de maintenir un rôle de la Jordanie dans la négociation globale. Mais alors que le roi est dans la capitale américaine, son royaume est secoué par de violentes émeutes à partir du 18 avril. La Jordanie est accoutumée de vivre de l'aide arabe et internationale et s'est endettée largement. La classe dirigeante, le monarque le premier, prélève un large tribut sur cette aide, sous forme en particulier de commissions sur les grands contrats. En raison de son endettement, la Jordanie est contrainte de s'adresser au Fonds monétaire international qui lui impose un programme de redressement des comptes. La population d'origine transjordanienne est particulièrement touchée par ces mesures budgétaires et les émeutes partent du sud du royaume, région traditionnellement soutien de la monarchie. Le roi doit revenir d'urgence et annonce la tenue d'élections pour l'automne ainsi que la lutte contre la corruption Il réussit à sortir de la crise, mais au prix d'importantes concessions politiques. Il en est presque à promettre la démocratie. Loin de s'orienter vers un apaisement en Cisjordanie et à Gaza, la volonté israélienne de s'opposer à la démonstration de signes nationaux palestiniens conduit à de nouveaux affrontements. Au mois d'avril, il n'y a pas de jour sans violence, avec des blessés, voire des morts. Le sommet est atteint le 13 avril avec 5 morts palestiniens dans une seule affaire. Rabin a donné son soutien pragmatique au plan Shamir, il explique le 27 avril. Suite au désengagement jordanien, Israël est contraint de s'entendre avec les Palestiniens. Je cite. Étant donné que nous excluons un dialogue avec l'OLP, il ne nous reste qu'à parler avec les représentants des territoires qui mènent l'essentiel de la lutte contre Israël et en supportent toutes les souffrances. Les mesures de répression des soulèvements peuvent empirer. Pour l'heure, le programme minimum de tous les pays arabes est d'obtenir le retrait total d'Israël en deçà de ses limites territoriales à juin 1967, de diviser Jérusalem et de créer un État palestinien, toute chose que je récuse. Par conséquent, il faut essayer de progresser pragmatiquement pour sortir du statu quo et de la violence en vue d'un dialogue sans aboutir à un cul-de-sac. Personnellement, je suis depuis 21 ans favorable au plan Alon, dont l'objectif est de maintenir dans la sécurité le caractère juif de l'État d'Israël. Il va de soi que le Parti travailliste et le Likoud ne sont pas d'accord sur le statut définitif qui devrait être adopté pour les territoires, mais leur participation à un cabinet d'union nationale peut du moins ouvrir la voie à une solution intérimaire. Fin de citation. Dans ce sens, Rabin et Peres ont encouragé l'ouverture d'un dialogue entre les personnalités nationales palestiniennes et la fraction du Parti travailliste menée par Yossi Beilin. Il n'est pas sur le truc là. Prête à un compromis avec les Palestiniens. Beilin, c'est donc un second Peres qui incarne au sein du Parti travailliste ceux qui sont le plus ouverts à un processus politique avec les Palestiniens. Il s'agit d'adjurer la partie palestinienne de se comporter avec réalisme et d'accepter les propositions d'élection qui permettront d'établir des institutions semi-étatiques et de pouvoir négocier plus. On laisse entendre qu'on pourrait ainsi faire des ouvertures à l'OLP. Yasser Arafat consacre sa nouvelle position internationale par une visite officielle en France les 2 et 3 mai 1989, ce qui provoque les protestations véhémentes des communautés juives de France, les déclarations hostiles de l'opposition de droite et l'enthousiasme des pro-palestiniens. Le gouvernement israélien voit le sabotage de son plan destiné à écarter l'OLP du règlement politique. François Mitterrand, dans son entretien avec le président de l'OLP, insiste sur la contradiction entre la déclaration d'Alger et la charte de l'OLP. Les interlocuteurs français suggèrent de constater la caducité de ce second texte. Arafat s'exécute dans un entretien télévisé. Il faut que cela soit clair. J'ai été élu sur un programme politique qui se fonde sur la base des deux États. Quant à la charte, il y a une expression française pour cela, c'est caduc. Enfin, c'est un souvenir oral. C'est caduc. En français. Cette expression fait le tour du monde. Les pacifistes israéliens s'en félicitent, tandis que Shamir le qualifie de sans importance et affirme ce que je veux, c'est de voir disparaître de la scène, peu n'importe comment. Moshe Arendt reprend l'ancienne assimilant l'OLP aux nazis. Je cite. En voyant certaines personnalités françaises se jeter dans les bras du chef de l'OLP ou se disputer l'honneur de partager leur table avec lui, je ne peux m'empêcher de me souvenir des années 30 en Europe où des gens raisonnables, parfaitement civilisés, occupant de hautes fonctions, vouaient la plus grande admiration à Hitler et se disputaient l'honneur de le rencontrer. Fin de citation. L'opposition légitimiste de l'OLP, à Bach et à Ouattmé, conteste le droit d'Arafat d'abroger la charte sans consultation des instances légitimes de la centrale palestinienne. Le 14 mai, le plan Shamir est entériné par le gouvernement israélien par 20 voix contre 6. Le Conseil autonome palestinien élu sera composé de 10 personnes afin d'éviter toute forme de parlementarisme. La période transitoire avant les négociations finales sera 3 ans. On ne mentionne ni le statut des habitants de Jérusalem, ni un quelconque contrôle international sur les élections. Les Palestiniens résidant dehors des territoires ne pourront ni se présenter aux élections ni voter. La Knesset approuve le plan le 17 mai par 43 voix pour contre 15 non, 12 abstentions et 12 votes blancs. Shamir a prêté serment de ne jamais donner aux Arabes une pouce de notre terre, même s'il nous faut faire durer la négociation durant 10 ans. La contestation radicale au sein du Likoud est menée par Ariel Sharon et David Levy. Alors que les territoires sont de nouveau en grève générale, un couvre-feu total est imposé sur la bande de Gaza. Les travailleurs palestiniens sont forcés de rentrer chez eux alors qu'ils ne peuvent pas circuler en raison du couvre-feu. Pour Rabin, se déplacer librement et travailler en Israël n'est pas chose acquise. Le but est d'imposer par la force le plan Shamir comme moindre mal. Denis Ross reçoit à Jérusalem-Est les personnalités palestiniennes et les somme d'étudier sérieusement le plan Shamir, alors que les Israéliens lui expliquent que toute demande d'éclaircissement est prématurée. Arendt se rend ensuite aux États-Unis pour rencontrer les responsables américains et s'adresser devant l'AIPAC, le lobby pro-israélien. Il veut obtenir une approbation de principe du plan Shamir avant toute interprétation créative, l'ouvrant plus largement aux intérêts palestiniens. Becker l'écoute avec courtoisie, ce qui permet à Arendt de dire publiquement ça suffit. Le 18 mai, un incident oppose des militaires israéliens à un groupe armé près d'Hébron. Trois Palestiniens et un soldat israélien sont tués. L'armée israélienne reconnaît qu'il s'agit d'un incident qui n'a rien à voir avec l'intifada. Le même jour, trois Palestiniens sont tués dans la bande de Gaza et six les deux jours suivants dans les protestations contre le couvre-feu. La répression israélienne vise le Hamas, maintenant considéré comme un ennemi dangereux. Le cheikh Yassine est arrêté, ainsi que 250 militants du mouvement. Pour le responsable militaire israélien, je cite, « Le cheikh Yassine est un symbole à Gaza et son arrestation entraînera sans doute quelques manifestations, mais à plus long terme, ce coup de filet permettra une diminution de la violence dans la bande de Gaza. » À cette date, une bonne partie des comités nationaux et le commandement national unifié ont été démantelés. Mais plus la répression est efficace, plus elle donne le champ libre à l'OLP en raison de l'effacement des capacités locales d'organisation. Des appels à la lutte armée sont lancés, mais Tunis y met rapidement fin. Le 18 juin, le Hamas, le Hezbollah et le djihad islamique sont mis sur la liste des organisations terroristes définies par Israël. Cette mesure juridique renforce les instruments de répression. Une personne arrêtée pour terrorisme doit faire preuve de son innocence, les autorités n'ayant pas le besoin de prouver sa culpabilité. Becker, exaspéré par la répression israélienne qu'il trouve improductive, est décidé à adresser un double message aux Arabes, aux Israéliens, en parlant à l'AIPAC le 22 mai 1989. Au premier, il est pressé de faire des actes concrets dans le sens de compromis, accommodation, avec Israël, comprenant le passage de la violence de l'intifada au dialogue politique. Il faut mettre fin au boycott économique, aux attaques contre Israël dans les institutions internationales et à l'assimilation du sionisme au racisme. Au second, il marque que l'administration Bush attend d'Israël de mettre de côté, une fois pour toutes, le rêve d'un grand Israël. La sécurité pourra être assurée par un règlement sur la base des résolutions 242 et 338 qui assurent à Israël des frontières sûres et reconnues. Renoncer à l'annexion, arrêter la colonisation, autoriser la réouverture des écoles, tendez la main aux Palestiniens en tant que voisins qui méritent le respect de leurs droits politiques. De leurs droits politiques. Fin de citation. Shamir et Arendt se sentent particulièrement visés parce qu'ils considèrent comme une manœuvre destinée à encourager les travaillistes et renforcer l'opposition radicale au sein du Likoud. Arendt lui écrit pour exprimer son étonnement et Becker lui répond que les Israéliens ne se rendent pas compte des résultats déjà acquis par la nouvelle administration. L'idée d'une conférence internationale et de la création d'un État palestinien ont été mis de côté. Cela ne satisfait pas la politique israélienne. Immédiatement, 94 sénateurs sur 100 signent une lettre au secrétaire d'État lui demandant fortement et publiquement de soutenir le plan Shamir. Quant à Rabin, interrogé sur la fermeture d'écoles lors de sa visite aux États-Unis où il est venu discuter de l'aide militaire américaine, répond Je cite, « Israël ne bougera pas d'un centimètre sans une solution politique dans les territoires. » Le sommet arabe extraordinaire, là, il se salue Arafat et Moubarak, hein, ils jouent aux mains. Le sommet arabe extraordinaire qui se tient à Casablanca du 23 au 26 mai est surtout consacré à la crise libanaise. L'élément le plus important est la réintégration de l'Égypte dans la Ligue des États arabes. Le sommet prône une conférence internationale sur la base des résolutions 242 et 338. Tous les États arabes, Syrie comprise, accordent un soutien unanime à Arafat et l'intifada. Tout en rejetant le plan Shamir, le sommet n'exclut pas la tenue d'élections dès lors qu'elles seraient assorties de garanties internationales et d'engagements israéliens à évacuer les territoires occupés. Si la direction de l'ONP avait encore des doutes sur les intentions américaines, la troisième session du dialogue palestino-américain à Tunis le 8 juin est là pour l'éclairer. La partie américaine propose avec enthousiasme le plan Shamir. Israël ne se retirera pas des territoires avant des élections. Il ne pourra y avoir de conférence internationale sans au préalable une amélioration des relations israélo-palestiniennes. Les droits politiques palestiniens seront définis au cours des négociations. La réponse palestinienne est que le droit à l'autodétermination est sacré et non négociable. On est maintenant dans l'impasse. Pour les Palestiniens, la stratégie américaine est de faire passer les positions israéliennes et de mettre fin à l'unité nationale palestinienne et au soulèvement. Pour les Américains, la stratégie palestinienne est de forcer les États-Unis à reconnaître des droits politiques palestiniens et à cesser de vouloir marginaliser l'ONP. Paltrow maintient par ailleurs, avec l'autorisation de Washington, des relations directes et secrets avec Mahmoud Abbas, Abou Mazen, et Salah Khalaf, Abou Iyad. Il lui est interdit de rencontrer Arafat. Le but est de renforcer les partisans du dialogue dans l'entourage du chef de l'ONP, mais le département d'État ne réagit pas quand on lui transmet l'acceptation de l'ONP du principe d'une période intérimaire, ce qui est un des éléments essentiels des accords de Camp David. Le dialogue officieux ne donne pas plus de résultats que le dialogue officiel. Oui. Toujours tenez donc cette idée qu'il y a pratiquement en permanence une négociation publique et des négociations parallèles. La violence est toujours quotidienne dans les territoires occupés. Le noyau dur des colons israéliens n'hésite pas à exercer diverses représailles violentes contre la population palestinienne, en dépit des admonestations du gouvernement israélien. La paix maintenant organise une grande manifestation de protestation contre les exactions des colons. On dénonce en particulier le badge imposé aux travailleurs palestiniens dans les colonies qui porte la mention « travailleurs étrangers » et qui rappelle fâcheusement l'étoile jaune de la Seconde Guerre mondiale. Cette décision malencontreuse est rapidement annulée. En revanche, la colère des colons ne fait que grossir. Shamir lui-même est bousculé le 20 juin par des colons lors des obsèques d'un des leurs tué la veille par des Palestiniens. Le même jour, ces Palestiniens ont été tués. Il évoque le risque d'une guerre civile qu'il faut éviter à tout prix. Sharon se fait porte-parole des colons et rejette toute perspective de gel de la colonisation. Devant l'intensification des migrations juives d'Union soviétique, on parle ouvertement d'en installer une partie dans les territoires. Le 9 juin, on entre dans le 19e mois du soulèvement. Le bilan établi par les Palestiniens est près de 700 tués, 60 000 blessés et 35 000 arrestations. Les Israéliens ne comptabilisent que les personnes touchées par les balles des soldats et non des colons, et donne des chiffres de 450 tués et 10 000 blessés. Le 5 juillet, pour calmer la contestation au sein du Likoud, Shamir est contraint de lever les ambiguïtés de son plan. Pas d'élection avant la fin du soulèvement, pas de participation aux élections des habitants de Jérusalem-Est, pas de négociation avec l'OLP, pas d'État palestinien, poursuite de la colonisation. De l'avis de tous, les conditions sont si restrictives que l'on ne trouvera aucun Palestinien prêt à participer à un tel processus. Le 6 juillet, un passager palestinien précipite un autobus dans un ravin faisant 14 morts et 27 blessés. Les Palestiniens plaident l'acte d'un désespéré ou d'un insensé. Le gouvernement israélien parle d'un acte terroriste suscité par l'ONP. Rabin, le 11 juillet, oppose quatre position de compromis. 1. Les négociations avec les Palestiniens des territoires seront entamées sans attendre la fin de l'intifada, mais les élections ne pourront se dérouler tant que le soulèvement se poursuivra. Nous rendrons des territoires contre la paix, mais ni tous les territoires, ni Jérusalem-Est. 3. Des Palestiniens de l'extérieur pourront participer au pourparler sur la solution définitive qui ne sera pas décidée à l'avance. Ce qui est un peu contraire avec le 2 d'ailleurs, puisqu'apparemment les choses sont décidées à l'avance. 4. Dès le moment où les négociations sur le statut final débuteront, la colonisation cessera. Il laisse entendre que sinon les travaillistes quitteront le gouvernement. Shamir fait machine arrière, expliquant que ce qui compte est la décision gouvernementale et non les explications données au Likoud. Il se comporte comme Arafat, démentant presque immédiatement ce qu'il vient de déclarer. L'équipe Baker cherche alors à jouer la carte égyptienne pour modifier les positions de l'OLP. Les Égyptiens jouent leur propre jeu en se maintenant en contact avec l'entourage de Pérez. Il en résulte un plan égyptien en 10 points ou questions transmis officieusement au gouvernement israélien. Il porte avant tout sur la procédure à suivre pour les élections. Supervision internationale, liberté de faire campagne, immunité des élus, retrait des troupes israéliennes des lieux de vote, complète liberté d'expression, participation des habitants de Jérusalem-Est. Il s'y ajoute l'engagement de procéder rapidement à des négociations sur la base des territoires contre la paix et le gel de la colonisation. Rabin se montre favorable au plan égyptien, sauf en ce qui concerne la participation des habitants de Jérusalem-Est. Plus que Pérez, il est devenu l'interlocuteur favori des Américains et l'ambassadeur des États-Unis en Israël s'entretient régulièrement avec lui, lui assurant un canal de communication direct avec Dennis Ross. Il y a donc maintenant 3 négociations en cours. La première avec Arendt sur le plan Shamir, la seconde sur les 10 points égyptiens avec Pérez, la troisième entre Ross et Rabin. C'est toujours un peu compliqué à démêler ces histoires que j'essaye de vous présenter. Arendt et Shamir attendent que l'Égypte leur communique officiellement le document pour pouvoir se prononcer. Ils n'ignorent pas les négociations difficiles parallèles, mais leur volonté est avant tout de gagner du temps pour maintenir le statu quo. Ils se payent le luxe de paraître comme modérés par rapport au radicalisme de Sharon et de David Levy. Le gouvernement israélien est décidé à frapper un coup fort au Liban où les violences se poursuivent entre pro- et anti-syriens et secondairement entre Hamas et Hezbollah. Le 28 juillet, un commando israélien enlève un cadre important du Hezbollah, le cheikh Abdelkarim Obeid, qui a succédé à Ralen Harb, assassiné par les Israéliens en 1983, et de deux de ses gardes du corps, deux de ses proches des gardes du corps selon les Israéliens. L'opération se fait sans coup férir, juste un villageois tué. Israël se félicite de détenir un otage de haut niveau lui permettant de négocier un échange avec 3 soldats israéliens disparus au Liban Sud en 1986. On parle alors d'une négociation globale qui comprendrait tous les prisonniers chiites en Israël, 150 environ, et les otages occidentaux au Liban, ce qui ne déplairait pas à l'administration Bush. Mais on annonce 2 jours après l'assassinat d'un otage américain, le lieutenant-colonel Higgins de la FINUL, probablement décédé auparavant, et l'exécution prochaine d'un second otage. Le président Bush proclame son indignation et en laisse entendre que les États-Unis sont prêts à exercer des représailles au Liban au cas d'une seconde exécution. L'Iran, qui est entré dans la pré-Roménie, se pose en médiateur et le second otage est épargné. L'affaire qui avait bien commencé pour Israël crée ensuite une certaine tension avec les États-Unis où on trouve que l'État hébreu est allé trop loin. George Bush parle de la nécessité de livrer tous les otages, y compris ceux détenus par Israël, mais il ne veut s'engager plus que dans ce sens d'ordre d'affaires qui ont coûté si cher à ses deux prédécesseurs. Il a le traumatisme de l'Iran Gate et ceux des otages américains à Téhéran. Quant au Hezbollah, il affirme ne rien savoir sur les élèvements d'otages et affirme que la seule affaire acceptable et pour nous, la libération du cheikh Abdelkarim Obeid et de ses deux parents, L'Amérique et Israël portent l'entière responsabilité de leur enlèvement criminel, de leur maintien en détention, ainsi que de toutes les réactions des fils de l'islam et des opprimés au Liban et à travers le monde. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Donc, vous voyez une période un peu terne, désolé pour vous. Ce sera plus sanglant la prochaine fois, je vous rassure.